tu es chercheuse à l'ULB et en tant que femme chercheuse, je voulais savoir à quel type de problématique tu es confrontée en fait au quotidien en tant que femme et chercheuse.
En fait, on est dans une phase où la recherche devient de plus en plus néolibérale, avec donc de plus en plus de compétitions pour avoir des financements qui sont de plus en plus courts, et donc on peut parler de précarisation de la recherche. Or, c'est des dynamiques qui affectent particulièrement les femmes, et en particulier, par exemple, les femmes qui ont des enfants, puisque, par exemple, l'imposition de voyager à l'étranger, c'est très compliqué à combiner avec des enfants en bas âge. Puisque la recherche demande une charge de travail de plus en plus importante, c'est compliqué à combiner avec une vie de famille, puisqu'en fait, la majorité des tâches domestiques reposent encore sur les femmes aujourd'hui. Et donc, concrètement, elles ont moins de temps à consacrer à la recherche que leurs camarades masculins, qui, du coup, sont plus compétitifs, car plus productifs.
Est-ce que toi, personnellement, tu as subi des inégalités dues au fait que tu es une chercheuse ? Est-ce que tu as des expériences à partager sur ça ?
Pas spécifiquement, mais je dirais qu'il y a quand même une ambiance de parfois, en fait, quand on est un groupe minoritaire dans mon service, puisqu'on est majoritairement, enfin, puisque ce sont majoritairement des hommes, et du coup, je pense que c'est plus difficile de trouver sa place ou de se sentir légitime, d'oser prendre la parole en réunion, d'oser défendre ses opinions et ses recherches.
Est-ce que c'est possible d'être une chercheuse avec des enfants concrètement ?
C'est possible, puisqu'il y en a qui le font, mais après, la question, c'est est-ce que c'est possible d'avoir à la fois une vie de famille et en fait des conditions de travail qui soient satisfaisantes. Je pense que ça demande en tout cas une quantité de travail gigantesque, puisque au travail à l'université, ça additionne celui à la maison. Et en effet, le fait que les femmes soient de moins en moins nombreuses au fur et à mesure qu'on est dans la carrière, c'est pas un hasard et ça transmet ces difficultés. Donc c'est possible, mais pas simple.
Parmi tes revendications, il y a la solidarité avec le personnel administratif, la sous-traitance donc, de l'université. Quels avantages en fait, ces personnes n'ont pas, contrairement aux autres employés de l'université ?
Le personnel de sous-traitance, donc ça c'est à l'ULB le nettoyage et la cantine principalement, donc c'est ISS et Sodexo. C'est-à-dire que ce ne sont pas des travailleurs ULB, donc par exemple, ils n'ont pas accès aux crèches, ils n'ont pas accès à un minerval réduit pour leurs enfants. Ils n'ont pas accès au remboursement des déplacements, enfin de tous les avantages qu'on a quand on est travailleur ULB.
Que faudrait-il changer en fait à ce niveau-là pour ces personnes-là ?
Moi je pense qu'il faut réintégrer les services de nettoyage et de cantine à l'intérieur du campus et que ça permettra des conditions de travail meilleures pour ces personnes-là et puis ça permettra une plus grande solidarité entre les travailleurs et travailleuses.
Quand on est étudiant en Belgique, on vit en moyenne avec 300 euros par mois, d'après une étude de 2019. 87% des étudiants dépendent de leur famille pour leurs frais. Est-ce que voilà, ton groupe de revendication et toi, est-ce que vous avez des idées de solutions pour lutter contre cette précarité étudiante ?
En effet, il y a un groupe d'étudiantes qui travaille spécifiquement sur les questions de précarité étudiante et qui, elle, je vais essayer de pas dire n'importe quoi, mais qui défend notamment un salaire étudiant. Donc l'idée que les étudiants sont des travailleurs travailleuses et donc qui méritent salaire et que c'est ça le principal outil pour les sortir de la précarité. Mais sinon aussi, de façon moins ambitieuse, développer des logements bon marché pour les étudiants. Par contre, augmenter les bourses, les rendre automatiques, ça c'est des pistes pour sortir de la précarité étudiante.
Est-ce qu'être mère et étudiante, c'est accessible financièrement ?
C'est quand même très difficile, notamment avec les chiffres que tu as cités sur la précarité étudiante. Donc combiner des études, plus s'occuper d'un enfant, dans un contexte où les aides sociales sont quand même assez faibles, je pense que c'est très compliqué. Mais à l'ULB, les étudiants ont accès à la crèche. Voilà, c'est déjà ça.
Parmi tes revendications, il y avait les rémunérations de stage. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ça ?
Oui, donc en fait, il y a de nombreuses études qui comprennent des stages obligatoires, donc qui sont en fait du travail concrètement et qui n'est pas rémunéré. On constate en plus que les filières où les stages sont les plus importants sont en général des filières très féminisées. Donc c'est les filières de la santé et de l'éducation. Aujourd'hui dans les études d'infirmière, sur un bac, on est quasiment à 50% de stages. Et donc, comme tout travail mérite salaire, il nous semble que ce travail doit être rémunéré. Et que sinon on entretient l'idée que le travail des femmes est gratuit et que c'est normal. Et que ça dévalorise aussi cette main-d'œuvre.
Parce qu'apparemment, les étudiants de filières techniques sont plus payés que les femmes qui sont...
En fait, si je me souviens bien, c'est des constats aussi dressés par les CUT, donc c'était les comités unitaires du travail étudiant, qui sont actifs au Québec, qui luttaient pour ça, et qui avaient fait une étude et qui constataient qu'en effet, les seuls stages qui avaient tendance à être rémunérés, c'était ceux dans des écoles polytechniques ou de sciences fondamentales. Alors que les stages en tant qu'infirmière ou professeur ou institutrice, par exemple, n'étaient jamais rémunérés.
Vous serez donc dans la rue le 8 et le 9 mars prochain pour manifester. Et alors, est-ce que c'est la première fois que tu fais ça ?
Moi, pas du tout. Ça fait longtemps que j'organise des mobilisations autour du 8 mars. Et du coup, je suis dans celles qui ont initié la grève du 8 mars en Belgique. Et donc là, c'est la deuxième édition de la grève. Et donc la deuxième grosse manif, mais ça fait déjà plus de 5 ans que je participe à des manifestations féministes.
Merci.